qui me serviront de point de départ pour évoquer une vie que nous voulons considérer rapidement ensemble. Deux Chroniques, chapitre 15, c'est un épisode de la vie du roi Asa. L'Esprit du Seigneur fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant du roi Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura une récompense pour vos œuvres. » Jusqu'ici, notre lecture. Karim l'a rappelé tout à l'heure, il y a 10 ans, jour pour jour, le monde entier était bouleversé par les attentats du 11 septembre sur le World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington. Le séisme était total, ceux qui ont vécu l'événement s'en souviennent, nous étions tous blessés dans notre humanité même, devant l'horreur perpétrée et endurée. Mais nous savions aussi que ce reflet effroyable de notre humanité basculant dans l'inhumain n'était malheureusement qu'un des signes de la blessure profonde du mal en général, du mal en nous aussi. Il a fallu du temps pour se relever du choc. Et je suis frappé de voir que même les Américains, qui d'habitude sont si pragmatiques, si positifs, ont eu besoin de ne pas trop se presser pour la reconstruction. Ils ont eu besoin de donner de la profondeur à ce qui s'était passé. Cet anniversaire des 10 ans sera certainement une étape, mais il a quand même fallu 10 ans pour désormais penser à aller plus loin. Dans la reconstruction qui s'opère, on a privilégié le mémorial par rapport aux nouvelles tours qui auraient presque gommé l'événement. On s'est réapproprié aussi le quartier du World Trade Center petit à petit, comme s'il fallait s'apprivoiser tout à nouveau après ce qui s'était passé. Et cela s'est fait, apparemment, cela se fait dans une optique plus humaine qu'avant. Il est bon qu'il y ait eu ce respect. Et il est bon aussi que, comme après un deuil, la vie reparte et s'affirme tout à nouveau, sans oublier la mémoire. Pourquoi souligner cela? C'est notre actualité. Mais tout cela nous rappelle aussi que la trame de notre vie est un terrain heurté. Si nous sommes appelés à inscrire des continuités, des fidélités dans notre vie, mais nous le faisons sur un terrain qui est varié, qui est heurté. Pour continuer, pour tenir bon, il faut s'ajuster à la réalité de ce terrain. La constance à laquelle nous sommes appelés ne s'obtient pas en appliquant tout le temps le même effort, en appliquant tout le temps les mêmes manières de faire, en appliquant tout le temps les mêmes recettes. Il faut, pour avoir de la constance, tenir compte de la réalité du terrain de notre vie. Cet été, en Corse, où nous étions en vacances, nous avons fait, avec Hélène, quelques marches sur les chemins de grande randonnée, quelques chemins de grande randonnée qui étaient vraiment bien corsés, c'est le cas de le dire, avec un soleil très généreux. Monter, descendre, traverser de pierriers, ce n'était jamais le même effort, jamais la même vigilance, jamais la même volonté. Et pourtant, en chaque situation, il fallait renouveler l'effort, renouveler la vigilance, renouveler la volonté. Pour aller au bout, pour tenir la distance, il faut s'ajuster, se mobiliser, et ceci de différentes manières. Alors maintenant, nous vivons l'étape de la rentrée. Et là aussi, c'est une nouveauté par rapport au temps qui précède. Et il faut en prendre sur soi un peu plus pour faire face à la rentrée. En même temps, il y a des objectifs, il y a des nouveautés, c'est intéressant. Mais tout n'est pas nouveau non plus, il faut s'ajuster, il faut assurer les régularités aussi. On rencontre aussi des obstacles, des agacements, mais il y a aussi des grâces et des bienfaits. C'est avec tout cela qu'il nous faut composer notre persévérance. Et je voudrais donc, dans cette ligne de la persévérance à composer avec bien des éléments de la vie, j'aimerais faire quelques flashs sur la vie d'un roi qui nous est présenté dans la Bible. Il s'agit du roi Asa. Nous avons lu un petit épisode de ce qu'il a vécu. Asa a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ à Jérusalem, un long règne de 41 ans, un long règne avec un bon bilan. Il est dit « Asa fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, son Dieu ». Moi, j'aimerais qu'on puisse dire ça de ma vie. J'aimerais qu'on puisse dire ça de ma vie à la fin de ma vie. J'espère que vous aussi, vous avez cet objectif, qu'on puisse dire cela de votre vie. Continuité donc sur l'ensemble de sa vie. Mais comment arrive-t-on à une telle continuité, quelqu'un qui a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel sur l'ensemble de sa vie? Qu'y a-t-il plus précisément quand on regarde le détail et le concret? C'est ce que je vous propose d'essayer d'explorer ce matin. Alors, j'imagine quand même que la vie d'Asa n'est pas la lecture avec laquelle vous vous êtes couché hier soir, et que ce n'a pas été non plus forcément ce avec quoi vous avez commencé la journée ce matin. Alors, ça me permet de vous guider à ma façon pour vous faire découvrir quelques aspects de cette vie. Alors, vous vérifierez plus tard ce que je vous ai dit en lisant par vous-même le récit. Je vous invite à lire, quand vous serez à la maison, les chapitres 14 à 16 de 2 Chroniques. Je pars d'un épisode, qui se déroule pendant le premier tiers de la vie et du règne de ce roi. Asa règne déjà depuis 11 à 12 ans. Un prophète du nom d'Azaria, nous l'avons lu, vient vers lui, saisi par l'Esprit de Dieu, l'interpelle publiquement. Il lui adresse une parole dont on ne sait pas a priori si elle est sévère ou si c'est une parole d'encouragement. Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voilà une parole qui bouscule un peu quand même nos bonnes habitudes de bonnes paroles sur Dieu. Le Seigneur ne se présente pas forcément sous son jour le plus rassurant. Sa constance semble dépendre de nous, de nos choix, de nos attitudes. Ce n'est pas comme l'a dit Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est « Le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui ». Ce n'est pas comme Dieu le promet à Josué, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». C'est, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Qu'est-ce qui vaut au roi Asa une telle interpellation? Est-ce qu'il serait quelqu'un d'inconstant qui aurait besoin d'être bousculé, d'être remis sur le droit chemin? Pour répondre à cette question, il faut considérer qui est Asa et d'où il vient. Et nous revenons là au début de l'histoire. Et là, on découvre que Asa est tout sauf quelqu'un d'inconstant. Il est au contraire celui qui a remis à l'honneur la fidélité de Dieu parmi son peuple. Si l'on reprend les choses au début, à la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël qui était unifié est divisé en deux parties. Le royaume du nord qui se sépare est le plus important, il y a là 10 tribus. Le royaume du sud à Jérusalem est le plus petit, 2 tribus, Juda et Benjamin, et bientôt on appellera ça simplement Juda. C'est là, à Jérusalem, que règnent les descendants de David et de Salomon, dont Asa fait partie. Pour des raisons politiques, le royaume du nord se coupe du culte de Dieu à Jérusalem et se crée son propre culte, avec ses propres sanctuaires, avec ses propres règles, histoire de justifier la séparation, de se préserver, de garder son identité. Bien vite, quand on agit comme cela, on ne peut pas tenir et l'idolâtrie emporte tout. Alors on pourrait espérer mieux à Jérusalem, du point de vue de la fidélité à Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas non plus. Les bilans sont tous désastreux après Salomon. Roboam, fils de Salomon, fait, nous dit le livre des rois, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Abijam, son fils, perpétue la tradition familiale. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et lorsqu'Asa arrive, résonne de partout, au nord comme au sud, le triste refrain de l'abandon de Dieu, de génération en génération, d'étape en étape. Et Asa, justement, est le premier à briser ce triste refrain. Enfin, avec lui, on entend autre chose. Asa fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et ça passe par des ruptures nettes. Il brisa les statues, il abattit les idoles. Il fit disparaître de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Vous voyez, le culte du soleil qui est allé jusqu'en Juda. Salomon avait des femmes égyptiennes. Le mot d'ordre d'Asa est désormais « Il faut rechercher le Seigneur ». Rechercher le Seigneur. Le mot parle d'une démarche personnelle où l'on s'approche de Dieu véritablement, personnellement, où l'on se met à son écoute, où l'on développe une attitude d'obéissance, où on a recours à Dieu dans les difficultés, où on lui fait confiance dans ce que l'on vit. Rechercher le Seigneur, c'est tout cela. Et Asa fait cela de tout son cœur et il entraîne son peuple à faire de même. Et on voit ainsi quelqu'un qui, par sa fidélité, par ses choix, brise le triste refrain de l'abandon de Dieu qui était en train de devenir le lot commun de roi en roi, de père en fils. Tout semblait aller dans le même sens. Il s'est, lui, décidé positivement pour Dieu. Et il devient ainsi l'homme de la rupture, celui qui rappelle qu'il n'y a pas de fatalité du mal, qu'on n'est pas obligé de perpétuer sans cesse le cycle de l'abandon de Dieu, même si on le voit tout autour de soi, même si on le voit dans sa famille même. Et c'est un beau message que de recevoir cela. Nous nous interrogeons sur la constance, nous découvrons qu'il y a à la base de la vie d'Asa, qui a fait ce qui est bien et droit aux yeux du Seigneur, il y a à la base la possibilité toujours présente d'un choix personnel pour Dieu, d'un choix personnel pour le bien, d'un choix personnel pour le mieux, malgré tout ce qui se fait autour. Nous ne sommes pas obligés d'imiter, nous ne sommes pas obligés de reproduire ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons faire nos choix, nous pouvons les affermir face aux circonstances, les affermir face aux modes, les affermir face aux pressions. Toujours, cette possibilité demeure. Toujours, il faut préserver cette possibilité. La base de la conscience, c'est le choix renouvelé, le choix affermi. Avec Asa, nous voyons donc la succession des rois tourner pour quelque chose de mieux, pour quelque chose qui enfin plaît à Dieu. Asa nous dit que nous sommes toujours libres pour le mieux, avec l'aide et le secours de Dieu, bien sûr. Et je propose que cela, nous le mettions bien dans nos têtes, dans nos cœurs. Nous sommes libres pour le mieux, avec l'aide et le secours de Dieu. Il nous faut nous en rappeler toujours. C'est la première phase. Première phase de rupture avec ce message qu'elle implique. Cette première phase de rupture a demandé de l'affirmation de la volonté. Il a fallu vraiment prendre des décisions claires. Mais, intéressant, quand on continue la suite de la vie d'Asa, on découvre que cette première phase est suivie par une seconde, dont le mot-clé est le mot « repos ». Il est dit, après qu'on ait décrit tout ce que Asa a fait pour dire « je cherche le Seigneur », il est dit « Dieu donna du repos » à Asa et à son peuple. Concrètement, ça veut dire pour eux qu'il n'y a pas eu de guerre, qu'il n'y a pas eu de menace contre eux, ils ont été en paix. Et c'est ce qui a permis à Asa de fortifier les villes de son petit royaume, de lui donner un peu de sécurité pour éviter qu'il ne devienne une passoire pour tous ceux qui auraient voulu y entrer ou le traverser. Ce repos est clairement décrit comme un don de Dieu à ceux qui le cherchent, comme l'a fait Asa. Asa lui-même en rend témoignage, il lit les deux, chapitre 14, verset 6 des deux chroniques. « Nous avons recherché le Seigneur, dit-il, et il nous a donné le repos de tous côtés. » Ce qui veut dire que lorsque nous prenons une décision claire pour le Seigneur veille sur nous. Lorsque nous prenons une décision claire de chercher le Seigneur, de lui donner une bonne place dans notre vie, le Seigneur, à son côté, de son côté aussi, s'engage à notre égard, prend soin de nous. On peut compter sur son action en notre faveur. Ce repos, cette paix, cette sécurité que Dieu donne pourtant à son peuple, n'en est pas pour autant un oreiller de paresse. C'est intéressant de voir ici que Asa en profite pour bâtir, pour fortifier des villes. Et je crois que c'est une invitation aussi en ce qui nous concerne, à savoir aussi mettre à profit les temps de paix, les temps de stabilité, les temps d'harmonie que Dieu nous donne. Si Dieu permet que nous connaissions des situations où nous sentons que nous sommes en paix, en harmonie, en sécurité, c'est un don de sa part. Mais c'est aussi quelque chose qui nous rend bien plus disponibles pour toutes sortes d'utilités, pour toutes sortes de projets. Et il est bon de pouvoir, pour vivre la constance, saisir ces moments de paix que Dieu nous donne pour également nous mettre en œuvre. Quand Dieu nous fait le don de la paix, le don d'une situation sereine, saisissons l'occasion que cela représente pour les bonnes initiatives qui sont rendues possibles. C'est un deuxième aspect de ce que vit Asa, de ce qu'il nous apprend dans ce cheminement diversifié qui est le sien. En même temps, cette paix et les initiatives que l'on prend, tout cela ne met pas à l'abri de tout combat définitivement. Et c'est une troisième étape que l'on voit dans la vie d'Asa. Asa a pu fortifier son royaume, il a eu un temps qui lui est donné. Mais voilà que soudain, nous raconte le livre des Chroniques, soudain, d'Éthiopie surgit une menace. Une armée bien plus puissante que celle d'Asa s'avance contre lui. Et les chiffres nous sont donnés. Asa a 580 unités de combat. Il est menacé par une armée qui a 1000 unités de combat. Et avec en plus 300 chars et chevaux, là où Asa n'a que des fantassins. Et il faut faire face. Il faut faire face impérativement à la situation. On n'a pas le choix. La situation n'est pas choisie, elle s'impose. La situation semble totalement défavorable. La menace est grave. En un instant, la paix si bienfaisante disparaît. Vous avez certainement déjà vécu cela aussi. Changement brutal de décor. Le sentiment que tout d'un coup survient quelque chose que l'on n'a pas choisi, que l'on n'a pas prévu et qu'il faut affronter. Le sentiment que ce qu'il faut affronter est 1000 fois trop fort par rapport à ce que sont nos ressources. Le passage d'une situation où on a la maîtrise de ses choix à une situation où on subit ce qui survient et où on ne maîtrise plus rien et où on a peur parfois. Et c'est ici que la foi et que le fait de chercher Dieu intervient encore. Car nous voyons Asa et son peuple, même s'ils sont pris de court par la situation, ne pas être totalement à court de ressources. Ils ont un recours, un vrai recours, le Seigneur. Ils se sont attachés à lui quand tout allait bien. Ils peuvent maintenant s'appuyer sur lui aussi et le chercher maintenant encore. Ils ne sont pas démunis. Vivre avec Dieu, rechercher le Seigneur comme le fait Asa, ne nous évite pas les revirements de situation qui peuvent survenir. Mais cela permet de ne pas les affronter les mains vides. Asa peut regarder à Dieu alors qu'il doit s'avancer contre cette armée qu'il a attaquée. Il peut invoquer Dieu. Il peut invoquer Dieu qu'il connaît comme son Dieu. Il peut demander son aide, il peut s'appuyer sur lui, compter sur son secours. mettre tout son espoir en lui au moment où il faut faire face. Toi seul, dit Asa au Seigneur, toi seul tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, car c'est sur toi que nous nous appuyons face à cette multitude. Bien des personnes essayent autour de nous toutes sortes de moyens pour se prémunir contre tous les risques de la vie. On attend tout de ces assurances que l'on multiplie un peu de partout. Et on se trouve parfois singulièrement pauvre en soi-même pour faire face aux situations. La foi qui apprend à chercher Dieu en toutes circonstances fortifie d'abord notre personne dans la relation avec Dieu et développe une confiance qui peut vraiment permettre aussi de tenir bon lorsque les choses bousculent. Même si parfois nous sommes conduits au bout de nous-mêmes, au point où, comme Asa, nous sommes amenés à dire à Dieu, « Toi seul peux me venir en aide. » Asa se trouve au bout de ses ressources en lui-même. Il ne lui reste que le Seigneur. Mais rappelons-nous que de dire à Dieu, « Toi seul, tu peux me venir en aide. » Dire « Toi seul », c'est beaucoup. Dire à Dieu « Toi seul », c'est immense. Dire, lorsque nous disons à Dieu « Il ne me reste que toi seul », nous disons en fait « Il me reste l'essentiel ». C'est ça ce que cela veut dire, « Toi seul ». Et il est bon pour nous, il est précieux pour nous de savoir que nous avons toujours le recours à ce Dieu. « Toi seul, tu peux agir, même si nous sommes au bout de nos ressources à nous ». Asa fera l'expérience dans cette circonstance de la valeur de ce « toi seul ». Car Dieu interviendra pour lui, lui donnera une victoire retentissante sur cette immense armée éthiopienne. Et c'est à ce moment-là, à ce moment où Asa revient en grand vainqueur de cette bataille, que nous arrivons au texte que nous avons lu, à l'épisode que nous avons lu. Azaria le prophète vient au-devant de lui avec cette parole, mi-encouragement, mi-avertissement. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Alors il faut imaginer la scène. Un roi qui avance devant ses troupes, un roi victorieux, un roi fatigué peut-être, mais plein de joie, un butin immense, une délivrance fabuleuse, la joie de tout un peuple. Et voilà un homme, un prophète, qui arrête tout cela et qui donne en pleine fête une parole qui rappelle l'importance de la constance, l'importance de la responsabilité. Vous savez, il n'y a que dans la Bible que des choses comme cela se passent. Il n'y a que dans la Bible que des choses comme cela se passent parce que ça veut dire que la parole de Dieu a plus d'importance que la position d'un roi. La parole de Dieu a plus d'importance que le statut d'un roi. La parole de Dieu doit pouvoir jouer son rôle de direction en toutes circonstances, à tout moment. Et c'est ce que nous rappelle cet événement, où alors que c'est la fête, ou alors qu'on célèbre la victoire, la parole de Dieu retentit, se met au centre. Et cela nous rappelle vraiment que la parole de Dieu doit pouvoir jouer son rôle de direction dans notre vie, en toutes circonstances, à tout moment. Ce n'est pas nous qui décidons si oui ou non c'est le moment. À tout moment, Dieu doit pouvoir nous parler. Dieu doit pouvoir nous bousculer. Dieu doit pouvoir nous reprendre. Dieu doit pouvoir nous encourager. Et nous devons garder cette souplesse. Nous devons garder cette disponibilité de cœur. Nous devons garder cette ouverture. C'est pour cela qu'il est important pour nous de lire régulièrement la Bible, de nous exposer régulièrement à ce que Dieu peut nous dire. C'est une façon de dire vraiment, oui, je veux que ta parole puisse me saisir, me reprendre, me diriger, m'orienter à tout moment. Tout comme c'est le cas ici pour ce roi qui revient pourtant vainqueur. Il est important aussi, c'est pourquoi il est important aussi dans cette lecture, que nous soyons attentifs à ce que nous pouvons recevoir, que nous nous laissions surprendre par ce que Dieu peut nous dire, que nous ne croyons pas que nous connaissons déjà les choses si nous lisons notre Bible depuis longtemps. Dieu a toujours quelque chose qu'il peut nous dire à un moment ou à un autre. Que nous recevions avec un cœur souple ce que Dieu peut vouloir nous dire au moyen de tel ou tel passage. L'intervention d'Azaria, c'est une manière de dire que pour tenir bon dans la constance, il faut que la parole de Dieu ait sa place toujours vivante dans notre vie. Cette intervention au retour de la victoire est aussi pleine d'à-propos. Il est si facile, après un temps fort, après une victoire, après une délivrance, de baisser la garde. Il est si facile de se dire « Oh, ben maintenant, on a eu une belle victoire, on se laisse aller en roue libre. Maintenant, on peut vivre sur cet acquis, facile, facile. » Si nous voulons garder de la constance, tenir bon dans notre vie, il est important de rester vigilant, y compris après les grands moments, y compris après les moments exaltants, après les victoires, après les sommets qui nous ont complètement saisis. On sait que bien des accidents d'alpinisme ont lieu dans la descente, après qu'on ait vaincu le sommet, parce qu'on se relâche un peu du fait qu'on est arrivé au sommet. Et c'est ce que rappelle, me semble-t-il, ici, Azaria à Asa et à son peuple. Il leur dit, vous avez eu une victoire, oui, mais tout n'est pas gagné pour autant. Il vous faut continuer à chercher le Seigneur. Il vous faut continuer à dépendre de lui. Il vous faut continuer à vous attendre à lui. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. La constance, la victoire, c'est chaque jour qu'elle se gagne avec l'aide et la présence du Seigneur. Alors quel est le statut de cette parole ? Avertissement, encouragement. C'est moitié-moitié. C'est mi-avertissement, mi-encouragement. Dieu sera avec vous si vous êtes avec lui et que vous le cherchez. Ça rappelle l'exigence, mais ça dit aussi vous pouvez y aller. Si vous cherchez le Seigneur, comptez sur lui, vous pouvez avancer. Vous l'avez bien vu d'ailleurs. Vous en avez fait l'expérience dans cette victoire que vous avez eue. Alors continuez avec courage. Voyez ce que Dieu a fait pour vous déjà et fortifiez-vous dans vos bonnes résolutions pour continuer à aller de l'avant pour ce qui reste à accomplir. Et c'est d'ailleurs sur cette note positive que se termine, que se conclut la parole d'Azaria, ce qui montre que c'est là ce qu'il visait. Il veut encourager. « Vous donc, leur dit-il, fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Azaria invite Asa et son peuple à capitaliser cette belle expérience qu'ils ont faite et il veut qu'elle devienne un tremplin pour la suite plutôt qu'un sommet sans lendemain. C'est aussi comme cela que l'on tient bon, que l'on avance de progrès en progrès. Veillons-nous aussi à utiliser comme des tremplins pour aller plus loin les belles expériences que nous pouvons faire, les expériences fortes qui nous sont peut-être données. N'en faisons pas des monuments figés d'anciens combattants qui ne sont là que pour dire « voilà ce que nous avons fait autrefois ». Faisons-en des tremplins pour continuer à avancer. Veillons à ce que nos expériences de la fidélité de Dieu nous entraînent plus loin pour chercher un peu plus le Seigneur, pour avancer un peu plus, un pas de plus dans l'obéissance ou dans les conquêtes auxquelles il veut nous conduire. Et si vous lisez en fait la suite de la vie d'Asa, vous constaterez qu'après cette intervention du prophète Azaria, c'est bien de cette façon qu'Asa a reçu cette parole, il a été encouragé pour continuer à aller plus loin. Alors j'aimerais pouvoir m'arrêter sur cette note uniquement positive. Mais il faut aussi mentionner ce qui s'est passé quelques années plus tard. Suite à la victoire d'Asa et à toute la suite positive qu'elle a eue dans sa manière de vivre sa fidélité à Dieu, un certain nombre d'Israélites du Nord se sont joints à leurs frères de Jérusalem. Ils ont vu que le Seigneur était là, qu'il bénissait, et ils se sont dit, on retrouve nos racines, on va participer au culte à Jérusalem. Des relations se nouent entre le nord et le sud, et probablement que les choses se font un peu dans les deux sens. Et cela ne plaît pas du tout au roi du royaume du nord, qui, veut rester séparé, pour qui Jérusalem est bien sûr une menace pour son identité. Et voilà le roi du nord, qui s'appelle Baïcha, qui décide de fermer la frontière en fortifiant la ville qui fait le passage de la frontière, la ville de Rama. Des frontières fortifiées pour s'isoler. Pour contrecarrer le mouvement, Asa a recours à une stratégie politique. Il propose aux Syriens, les Syriens qui sont à la frontière nord du royaume nord d'Israël, de rompre leur alliance avec le royaume du nord. Il met le prix pour détourner les Syriens de leur alliance. Et le roi de Syrie, pragmatique, accepte. Du coup, le royaume du nord se trouve menacé par la Syrie. Et qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, le roi arrête ses travaux de consolidation de la frontière sud et il va se reporter vers la frontière nord. Et Asa récupère les matériaux du royaume du nord pour la ville de Rama. Il récupère tout ce qui avait été apporté. Il fortifie ses propres villes à la frontière. Politiquement, le coup est parfait. Mais parfait à court terme seulement. Et voilà qu'un prophète, Hanani, vient le dire au roi Asa et lui dit en substance, tu as fait une faute, mon ami. Tu t'es allié avec un ennemi que tu aurais pu vaincre sans cette alliance que tu as faite. Tu vas le traîner comme un boulet. Cette alliance va te causer des problèmes et des guerres. Là, tu n'as pas cherché le Seigneur comme il le fallait. Et le récit nous dit que cette fois-ci, Asa n'a pas écouté. Asa, si fidèle dans bien des domaines de sa vie, s'est mis en colère contre Hanani, l'a fait mettre en prison. Il ne revient pas sur lui-même à ce moment-là. Hanani, pourtant, lui a donné une belle parole, une belle promesse. Il lui a dit, écoute, le Seigneur étend ses regards sur toute la terre. Il veut soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'était une invitation à dire, reviens à lui, reconnais tout cela et le Seigneur te soutiendra. C'était un encouragement très clair. Mais là, Asa s'est fermé. Vous pouvez le lire au chapitre 16 du livre des Chroniques. Et le livre des Chroniques nous souligne que dans le même mouvement, Asa a opprimé quelques-uns du peuple. Probablement, il s'est mis à opprimer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ça ne veut pas dire qu'Asa a complètement abandonné le Seigneur. Le texte reste bien précis, circonscrit à ces quelques actes. Il ne généralise pas. Mais il y a eu là un domaine où Asa s'est cabré et où il n'a pas donné la mesure alors de ce qu'il aurait dû, de ce qu'il aurait pu donner. Et on retrouve une autre notation sur la fin de la vie d'Asa. À la fin de sa vie, alors qu'il souffrait énormément des pieds, une maladie des pieds, probablement une gangrène, là encore, il s'est bloqué. Il n'a pas cherché le Seigneur, nous dit le texte. Il n'est pas entré dans une démarche de confiance et de prière. Il n'a consulté que ses médecins, nous dit le texte. Le texte biblique souligne ses limites sans pourtant les généraliser. Elles ne remettent pas en cause le bilan global de la vie d'Asa. Mais elles sont comme un bémol, comme une dissonance, comme une tristesse de Dieu sur la vie d'Asa. Et c'est un appel pour nous à rester souples devant Dieu, à ne pas nous bloquer, à ne pas nous raidir dans aucun domaine, à savoir revenir sur nous-mêmes, si c'est nécessaire de le faire, à savoir revenir sur nous-mêmes à chaque fois que c'est nécessaire de le faire. Nous savons qu'il y a toujours des ressources de grâce lorsque nous sommes appelés à revenir sur nous-mêmes, lorsqu'il faut demander pardon. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons vraiment la grâce qui nous est assurée et nous est donnée en abondance. Le pardon, l'accueil nous sont donnés, les ressources pour reprendre la route si on s'est fourvoyé, sont toujours possibles. Toujours nous pouvons revenir à Dieu parce que ces ressources nous sont données. Mais cela veut dire que nous devons d'autant plus vivre dans cette ouverture à Dieu, ne jamais nous cabrer, et faire de chaque page, de chaque aspect de notre vie, un livre ouvert devant le Seigneur. Car on risque autrement de voir s'installer des zones de blocage dans notre vie, des zones qui viennent entacher ce que Dieu fait par ailleurs en nous, ou ce que Dieu fait par ailleurs par nous. Des zones qui sont comme une tache, oui, comme une tristesse de Dieu quand il regarde notre vie. Alors, si nous voulons avancer aussi dans la constance, si nous voulons tenir dans une vie selon Dieu, acceptons d'être repris. Acceptons d'être formés, d'être modelés, encore et toujours, dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les circonstances qui surviennent. Vous le voyez, vivre la constance, c'est une affaire de tous les moments, c'est une affaire de toutes les situations. En ce temps de reprise, de rentrée pour l'année scolaire, nous pouvons demander à Dieu qu'il nous aide à être bien vigilants, à être bien réactifs, à être bien ouverts. Mais la promesse nous est aussi donnée, et nous pouvons compter sur cette promesse. C'est la parole qu'avait donnée le prophète Hanani, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Comptons sur cette promesse, elle est pour nous. Amen.